chanter pour le Seigneur. En lien avec la pastorale liturgique et sacramentelle du diocèse de Cahors.
Bonjour à toutes et à tous, et bonjour Martine.
Bonjour Emmanuel, et bonjour à tous nos auditeurs.
Alors Martine, aujourd'hui vous allez parler du credo.
Ah oui, avec grand plaisir Emmanuel. Proclamer le credo, c'est dire « je crois ». C'est croire en un Dieu unique, Père, Fils et Saint-Esprit, et reconnaître en Jésus de Nazareth le Christ, vrai homme et vrai Dieu. Alors, le symbole de Nicée-Constantinople, il y a donc deux credos, bien sûr, le Nicée-Constantinople et celui du symbole des apôtres, mais donc le symbole de Nicée-Constantinople est une profession de foi commune aux trois grandes confessions chrétiennes, le catholicisme, l'orthodoxie et le protestantisme. C'est celui qu'on appelle le credo œcuménique. Et je vous propose de l'écouter tout de suite, donc ce credo Nicée-Constantinople, chanté.
Je crois en un seul Dieu.
Oh!
Martine, vous venez de citer le credo, symbole de Nicée-Constantinople, mais quelle est l'origine ?
Le symbole de Nicée-Constantinople, Imanol, est d'origine orientale. Le symbole de foi des 318 pères de Nicée en 325 a voulu réagir contre l'hérésie d'Arius touchant à la divinité du Christ. Ce credo utilise pour la première fois le langage de la philosophie grecque pour parler du Christ consubstantiel au Père, c'est-à-dire homo ousios, ousios ou consubstantialis. Ce langage n'est pas biblique, d'où les critiques qui naquirent à la suite du concile. À la différence du symbole baptismal, dont le langage est liturgique et narratif, le symbole de Nicée utilise un vocabulaire doctrinal et théologique. C'est le credo d'un concile œcuménique, la confession de foi exprimée par les évêques. Toutefois, ce symbole n'est pas une composition créée comme telle par le concile, donc le concile de Nicée. Son texte est proche du symbole de Jérusalem, né antérieurement dans la ville sainte ou au moins en Palestine, aménagé et complété par les pères conciliaires. Ultérieurement, le credo de Nicée intégrera la foi du concile de Constantinople en 381, celui-ci ayant confirmé la foi de Nicée en faisant quelques additions concernant la divinité du Saint-Esprit, en réponse à l'hérésie des pneumatomaques qu'il a refusée, d'où son nom de symbole de Nicée-Constantinople. Les deux premiers articles ont complété le texte de Nicée. Ainsi, après « Créateur du ciel et de la terre », le texte précise « de l'univers visible et invisible ». Au 5e siècle, ce symbole sera utilisé en Orient pour les baptêmes et bientôt dans la liturgie eucharistique. Il entrera dans l'Eucharistie en Occident au 8e siècle, incluant ainsi la notion du Filioque, l'Esprit-Saint procède du Père et du Fils. Mention insérée malheureusement hors concile œcuménique, d'abord en Espagne, contre les tendances ariennes, puis à la cour de Charlemagne et beaucoup plus tard dans la liturgie de Rome. Ce petit ajout d'ailleurs gâcha les relations quelque peu entre les églises orientales et le monde latin pendant des siècles. Alors, le credo, situé entre la liturgie de la parole et la partie eucharistique de la messe, permet ainsi aux fidèles de chanter la foi de l'Église avant de participer au sacrifice, de même que les futurs baptisés d'autrefois professaient la foi de l'Église avant de communier au corps et au sang du Seigneur. D'une manière générale, ce formulaire insiste sur l'unité, un seul Dieu, un seul Seigneur, Jésus-Christ, un seul baptême. Concernant le Père, le credo insiste sur un seul Dieu et s'oppose par là au courant gnostique. Il complète la mention de la création avec de l'univers visible et invisible.
En préparant cette émission, Martine, vous m'avez dit qu'il y avait deux credos possibles, le symbole de Nicée-Constantinople et le symbole des apôtres. Quelles sont les différences ?
Oui, alors le symbole des apôtres, lui, est d'origine occidentale. Alors à l'origine, il y a une légende, très belle. Cette belle légende est née au IVe siècle et survivra jusqu'au XVe siècle environ, et elle raconte que chacun des 12 apôtres, avant de quitter le groupe pour évangéliser le monde, aurait formulé un des 12 articles du symbole des apôtres. Si ce récit est légendaire, il recèle cependant une vérité profonde. Le symbole appelé des apôtres, ou vieux symbole romain, vers la fin du IIe siècle, s'enracine dans la foi du Nouveau Testament et dans les premières confessions de foi des Églises, c'est-à-dire dans la foi des apôtres. On en retrouve un écho dans le symbole baptismal de la tradition apostolique d'Hippolyte de Rome en 220. Au moment où le triple bain baptismal va se réaliser. Le ministre, et à travers lui l'Église, récite la profession de foi sous forme interrogative. À chaque question, le futur baptisé répond en confessant la foi « Je crois ». Puis, posant la main sur sa tête, le ministre l'immerge une première fois dans l'eau. Il n'y a pas à cette époque d'autres formules baptismales que ce triple dialogue. On n'utilise pas encore le « Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». C'est donc la confession de foi partagée par le ministre et le futur baptisé qui scelle le pacte d'alliance avec Dieu, donc futur baptisé adulte, et constitue la parole essentielle du baptême. Il suffira de passer de la forme interrogative à la formule déclarative « Je crois en Dieu » pour que naisse le symbole des apôtres.
Et aujourd'hui, Martine, où trouve-t-on le symbole de foi dans la liturgie actuelle ?
Alors, comme je le disais déjà depuis le début, la liturgie eucharistique dominicale propose le choix, donc, soit le symbole de Nicée-Constantinople, soit le symbole des apôtres. À la jonction de la liturgie de la parole et de la liturgie eucharistique, il est soit chanté par tous, la plupart du temps dans la langue du pays, soit alterné par la chorale et l'assemblée. C'est à la fois la réponse de l'assemblée à la liturgie de la parole et l'entrée dans la partie eucharistique de la messe. Alors là, on peut aller dans ce qu'on appelle la PGMR, la présentation générale du missel romain au numéro 67 et 68. Tout est bien expliqué, effectivement, de ce que je viens de dire. La liturgie eucharistique confesse encore la foi dans bien d'autres moments, hein, dans la préparation pénitentielle, avec la troisième formule, dans le gloire à Dieu, et surtout dans la prière eucharistique, notamment la préface. Mais alors que le credo utilise le langage de type doctrinal, la prière eucharistique, elle, confesse la foi dans le langage de l'action de grâce, langage liturgique et poétique. Beaucoup de paroisses, d'ailleurs, ont choisi le symbole des apôtres, sans doute pour sa brièveté, peut-être aussi parce qu'il apparaît dans un langage moins technique. Les fidèles réagissent au vocabulaire utilisé, notamment dans le symbole de Nicée-Constantinople, s'étonnent aussi de la difficulté de certains mots. Dieu même nature que le Père, Dieu Père le Tout-Puissant, Jésus-Christ engendré, non pas créé, il procède du Père et du Fils, etc. Ou de l'audace de certaines formules. « Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. » Ils se demandent pourquoi un tel texte, si différent des lectures bibliques et de la prière eucharistique, a trouvé sa place dans la liturgie de la messe. Mais comme je disais au début, c'est quand même le credo dit œcuménique. Il est donc important de remonter, bien sûr, aux sources du credo, d'en dégager l'origine biblique, tout en pointant le vocabulaire non biblique qui s'est ajouté au fil des temps. Cette recherche permettra d'ailleurs de découvrir le rôle joué par une telle profession de foi dans l'histoire et quelle signification elle peut avoir aujourd'hui encore si on la comprend bien.
Merci beaucoup Martine pour cet éclairage sur le credo et on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau volet de Chanter pour le Seigneur.
Au revoir Emmanuel et au revoir à tous, à la semaine prochaine.
C'était Chanter pour le Seigneur. En lien avec la pastorale liturgique et sacramentelle du diocèse de Cahors.